Et notre invité ce matin, Léo Walter, bonjour.
Bonjour.
Député NUPES sur la seconde circonscription des Aldos de Provence. Rapidement, monsieur le député, avant de parler de sujets locaux, être la France insoumise et se dire féministe, aujourd'hui, ça ne colle plus forcément après l'affaire Quatennens.
Bien sûr que si, ça colle. Je pense que nous sommes un mouvement qui a su faire face à cette situation. Ce n'est pas parce qu'il y a des soucis qu'il n'y a pas de volonté d'y répondre.
Vous avez su faire face quand Jean-Luc Mélenchon soutient son confrère en soulignant son courage et sa dignité, quand Emmanuel Bompard appelle à la nuance en soulignant qu'il était question d'une gifle. Est-ce que vous avez su y faire face ?
Je pense qu'effectivement, collectivement, nous avons su y faire face. Le communiqué de la France Insoumise est très clair. Nous condamnons toutes les violences faites aux femmes. Et la décision d'Adrien Quatennens, validée par le mouvement, de se retirer à la fois de la tête du mouvement et du travail parlementaire pour le moment, me semble être la bonne. J'aimerais que les autres partis politiques aient le même type de réaction face à ce genre de situation.
Alors Léo Walter, la semaine dernière, vous étiez au sein de l'hôpital de Manosque. Vous l'avez visité pendant plusieurs heures ce matin. On annonce de nouvelles nuits de fermeture, 6 nuits de fermeture dès cette semaine. Pourtant, la direction avait promis du mieux dès cette rentrée. Est-ce qu'il faut encore se dire que le problème est local ou plutôt conclure que le problème est structurel ? C'est-à-dire que les Aldos de Provence n'attirent plus d'un côté, mais le milieu de la santé non plus.
Alors, je pense que les deux sont en partie vrais. C'est la marque, effectivement, que le problème est systémique. Hein. Il y a des urgences fermées un peu partout en France, à Draguignan, proche de chez nous. Effectivement, quand j'ai visité l'hôpital, nous étions plutôt dans une phase où la direction nous annonçait du mieux. Il semble que ce ne soit pas possible de faire du mieux dans les conditions actuelles de l'hôpital public.
Vous avez rencontré le directeur Franck Pouilly ?
Non, j'ai rencontré la directrice adjointe qui m'a accompagnée pendant toute la visite, mais Monsieur Pouilly était retenu à Digne ce jour-là.
Et qu'est-ce qu'elle a pu vous dire ? Est-ce qu'elle partage justement ce constat que vous faites aujourd'hui ?
Oui, je pense que tout le monde le partage. Tout le monde partage cette idée qu'il y a une véritable difficulté pour l'hôpital public et en particulier pour le service des urgences. Il y a plusieurs raisons à cela, hein, c'est multifactoriel, et je pense que ce diagnostic est partagé par tous.
Alors vous avez souligné justement plusieurs problématiques, non reconnaissance de la pénibilité au sein des urgences, diplôme d'urgentiste mal conçu, réévaluation du numerus clausus sans augmenter la capacité d'accueil des universités, recrutement d'intérimaires moins qualifiés et mieux payés. Mais qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au sein de la NUPES pour que le milieu de la santé se porte mieux ?
Alors, il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas majoritaires dans ce pays. Si c'était le cas, notre programme s'appliquerait. Et ce que nous proposons est contenu dans notre programme, l'avenir en commun et dans les livrets spécifiques de la santé, c'est-à-dire un chantier du sol au plafond pour l'hôpital public avec un investissement public massif, un recrutement massif, une ouverture de places dans les universités, puisque je le disais, le numerus clausus n'a été levé que théoriquement et que pratiquement il existe toujours. La remise en cause et le retour à ce qu'on appelle la NUMA, c'est-à-dire une certification urgentiste qui ne bloque pas les médecins qui s'engagent dans cette carrière. Et puis enfin, une proposition qui a été en partie reprise, mais comme souvent mal reprise par le gouvernement, à savoir la prise en charge des études de médecine en échange d'un temps d'astreinte pour les jeunes médecins qui iraient là où ils sont nécessaires, et donc en particulier dans les déserts médicaux et dans les hôpitaux publics où il y a un manque de médecins criant.
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup des prix de l'énergie, de cette crise énergétique. Les communes souffrent des hausses, justement, une situation jugée intenable par Daniel Spagnou, maire de Sisteron, président de l'association des maires dans les Alpes de Haute-Provence. Il a d'ailleurs écrit à la secrétaire d'État en charge de la ruralité, Dominique Faure, pour demander l'instauration d'un mécanisme d'urgence pour les communes lors de la prochaine loi de finances. Est-ce que vous allez soutenir cette demande de Daniel Spagnou ?
Alors oui, bien entendu, je suis actuellement, quand je ne suis pas à Paris en train de siéger à l'Assemblée nationale, en tournée dans toute la circonscription et je rencontre les maires de la circonscription. Tous me disent la même chose, quelle que soit la taille de leur commune, quelle que soit leur opinion politique. Et ils me disent tous qu'effectivement, ils ne sont plus en mesure de faire face aux factures d'énergie qui s'annoncent. Daniel Spagnou, l'autre jour, m'annonçait une augmentation de près de 400 000 euros de sa facture d'électricité et de gaz pour la ville de Sisteron. C'est intenable. Donc, il faut répondre à cette urgence pour les communes, parce que sinon, elles ne seront pas en mesure de chauffer les écoles cet hiver, entre autres. Et donc, bien entendu, je soutiendrai cette proposition. Nous avons fait nous-mêmes des propositions très claires de blocage des prix, de faire porter ce blocage sur ce que nous appelons les profiteurs de crise.
Les super profits, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et au premier rang desquels, donc, les entreprises de l'énergie et par exemple Total, qui n'a pas payé un centime d'euros en France l'année dernière. Donc, bien entendu, je soutiendrai cette proposition. Il faut absolument répondre non seulement auprès des collectivités locales, mais aussi des usagers à cette hausse des prix intenable.
Total qui a menacé d'ailleurs hier d'arrêter sa remise effective actuellement sur l'essence en cas de taxe sur les super profits.
Ben, je comprends bien qu'il menace de le faire, puisque cette remise qu'il fait représente même pas un vingtième de ce qu'il paierait en cas de taxe sur les super profits. Donc Total peut arrêter cette remise si la taxe est mise en place. L'usager et le contribuable, ils seront gagnants.
Quand Elisabeth Borne, la Première ministre, dit qu'elle n'est pas contre cette taxation des super-profits, mais qu'elle ne sait pas ce qui se cache derrière super-profit, idem du côté de Bercy, vous lui répondez quoi dans la définition ?
Eh ben, je lui réponds qu'un super-profit, c'est un profit qui n'est pas dû à l'activité de l'entreprise, mais à la conjoncture. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent en Europe, beaucoup d'autres dirigeants politiques. Il suffit qu'elle s'adresse à ses collègues pour comprendre de quoi il s'agit.
Vous avez été interpellé au cours de cet été par Rémi Audou, le maire de Lettré, choix plutôt surprenant puisque Lettré n'est pas sur votre circonscription. En tout cas, il vous interpellait par rapport au transfert de la compétence eau et intercommunalité. Il vous demandait de soutenir le texte du député Fabrice Brun pour revenir sur ce transfert obligatoire de la compétence eau. Est-ce que vous allez soutenir ce texte ? Léo Valter.
Oui, bien entendu. Je rappelle encore une fois que l'abrogation de la loi NOTRe était également dans notre programme des élections présidentielles et des élections législatives. Les maires que je rencontre, encore une fois en ce moment, c'est la deuxième de leur priorité, à savoir l'abrogation de la loi NOTRe et en tout cas la suspension de l'obligation des transferts aux communautés de communes parce que ça les met dans une situation intenable. Donc, bien entendu, je vais soutenir ce texte.
Léo Valter, qui était l'invité d'Alpe 1 ce matin, député de la NUPES sur la seconde circonscription des Alpes-de-Haute-Provence. Merci.